Mardi 2 octobre, bienvenue à cette première émission de l'aérospatiale du mois d'octobre. Justement, j'ai gagné avec vous, qui est bien contente de la vie, de la température et aussi des couleurs dans les arbres. Il faut que je le dise, c'est particulièrement spectaculaire. Ceci étant dit, on consacre pas notre émission à ça, on reste quand même dans l'univers des arts visuels. Aujourd'hui, on discute avec Michel Guimond, qui nous entretiendra de l'exposition qu'il consacre à Rita Letendre, une exposition sur son travail des 30 dernières années dans sa galerie, bien entendu. Anouk Desloge, pour sa première chronique de, j'allais dire, de la session, de la saison, viendra nous parler de l'exposition ADSA, 10 ans d'urgence, qui est présentée à la maison Amel Bruno. On discute aussi avec Annelise Griffon, Mélanie Bédard et Charles-Frédéric Ouellette de l'exposition Hétérotopie, espace autre, qui est présentée à Regard. Et on accueille, bien entendu, Raymond Poirier. Bonjour.
Bonjour.
Tu nous tends des carottes aujourd'hui encore?
Un rapport qui dit qu'il y aurait, d'ici 5 ans, plus de 9000 musées, fondations, centres d'art qui seraient créés à travers le monde.
T'as dit un rapport, hein?
Un rapport, une étude.
J'ai compris, un rapport. Fait que je me demandais vraiment où est-ce que tu t'en allais avec ça.
C'est 50 Cent qui dit ça.
Oui, c'est ça. Ça l'intéresse beaucoup, les arts visuels. Et aussi, on discute avec Simon Roy, qui nous fait une proposition cette semaine. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ben oui, très bien. Je suis excité comme une cheerleaders américaine.
Ouais, je suis pas surprise, hein?
Ben oui, cette semaine, on va avoir un spectacle en art audio fait assez rare, malheureusement, à Québec. C'est le collectif à géométrie variable Napan Jazz. Donc, un spectacle le 4 octobre, ce jeudi, à l'Agité. C'est un spectacle à contribution volontaire. Donc, tous ceux qui ont des oreilles curieuses, je les invite à venir faire un tour à l'Agité.
Oui, parce que c'est rare aussi, Napalm Jazz, là. Je pense que ça fait vraiment très, très longtemps là,
qu'ils ont produit à Québec. Ben oui, ça fait 15 ans que ce ne sont pas produits live à Québec. Puis, c'est ça, la musique, tout ce qui est en art audio, moi, je trouve que ça prend tout son sens quand on voit les performances. Donc, Napalm Jazz, le noyau central, c'est composé d'Éric Dorion, un ancien collaborateur de l'aérospatiale. Il y a Philémon, puis Ad Dontigny. Donc, qui se greffe à ça de temps en temps. Il y a Martin Tétrault, Alexandre Saint-Onze, Sam Chalabi, Alexis Bellavance. Donc, vraiment les all-stars de l'art audio au Québec. C'est la crème, si on peut dire. Le spectacle, par contre, va être en duo, en formation duo ce jeudi. Ça va être Éric Dorion et Philémon. Donc, je pense que ça va être pas mal intéressant comme performance. Ça donne musique souvent assez brutale, ça donne jamais dans la dentelle. C'est toujours assez intriguant. Éric Dorion qui est toujours donne des performances toujours spectaculaires, vraiment toujours vraiment rough avec le matériel. Donc c'est vraiment à voir. J'ai sélectionné donc 4 pièces, c'est tiré de leur album Cassette 1999-2000, c'est un album qui est sorti en 2007, donc ça ramasse plusieurs performances live du collectif, puis c'est ça, j'ai une sélection de 4 pièces différentes, je veux dire 4 morceaux différents, parce que tout ça c'est une pièce qui dure environ une heure, donc on va seulement en entendre quelques extraits.
Oui, parce que... Une heure, hein, ça prendrait tout le temps de l'émission. Mais
exactement.
Simon, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, fait qu'on se voit à l'Agité.
On se voit à l'Agité, puis si on se manque à l'Agité, on peut t'écouter dimanche à 21h à Web Musique.
Oui.
Et voilà, donc on écoute le premier extrait de l'album Cassette de Napan Jazz.
The Bible said that Jesus, the Son, he was troubled in the spirit and testified and said, verily, verily, I say unto you, 16, that one of you shall betray me.
For God
then the disciples
so
looked one upon another, doubting of whom he spake.
That he gave his only begotten
Son. There was one leaning on the bosom of whosoever on his Jesus' bosom. And one of his disciples, whom Jesus loved,
have everlasting life.
Simon Peter therefore said unto him,
into the world,
that he
should
ask who it was,
that the world through
which
it
be, whom he spake.
Amen on Jesus Christ.
Him is not condemned.
Said unto him, who is it?
But he that believeth not
is laying on the breast of Jesus and John,
because he hath not believed.
And the beloved disciples,
all in the
dark. They're trying to find out who's going to do this.
Now, I want to talk to you about this.
Now, see here, and I'll read you some more scriptures.
And
of course, Jesus told these disciples this.
Voilà, donc c'était un premier extrait de Napalm Jazz, une suggestion de Simon Roy qui se colle vraiment à l'événementiel cette semaine puisque Napalm Jazz sera en spectacle jeudi à compter de 20h30 à l'Agité. Et là, Raymond Poirier, juste avant la chronique de Simon Roy, nous a parlé d'un certain rapport. Est-ce que tu nous en parles maintenant?
Ben oui, lançons-nous là-dessus. En fait, c'est la société Art Price qui a essayé d'évaluer les tendances muséales dans le monde et semble-t-il, selon eux, ben il pourrait y avoir jusqu'à 9000 musées, centres d'art et fondations qui verraient le jour sur les 5 prochaines années à travers le monde. Ce qu'ils disent, c'est qu'essentiellement, il y aurait un boom parce que de plus en plus, on se rend compte du potentiel offert par l'industrie muséale, d'un côté en matière du marché de l'art, de l'autre côté en matière de l'industrie touristique. Je t'amène une citation peut-être du président de l'organisme, ça met un peu en contexte l'étude. Donc, ce qu'on dit, c'est de A, le musée qui est né en Europe et principalement en France à la fin du 18e siècle a échappé dans un premier temps à toute logique économique, sa mission étant centrée sur la conservation des œuvres sous le regard de l'institution publique. La véritable révolution est venue principalement des États-Unis, avec notamment Peggy Guggenheim, qui a jeté les bases de l'industrie muséale au 20e siècle. Au 21e siècle, l'industrie muséale est devenue un véritable secteur économique. Jamais la demande n'a été aussi importante pour visiter les nouveaux musées, quel que soit le continent. C'est le pouvoir de l'art sur tous les continents, et aujourd'hui, donc, les entreprises, les industriels, les distributeurs, les hommes d'affaires, tous ceux qui ont réussi envisagent de créer un musée, un centre d'art, une fondation. C'est à la fois bon pour leur image, leur statut social, mais également, ça devient vite rentable. Donc, est-ce qu'on assistera à un boom de l'industrie muséale et donc, par extension, de l'industrie de l'art au cours des prochaines années? Est-ce que l'art demeure donc un lieu d'investissement important pour le milieu des affaires internationales? Est-ce qu'il y a effectivement de gros avantages à y investir? Ça reste à voir, mais selon donc Art Price, semble-t-il que tous les données pointent vers le oui.
Donc, on suit la chose de près.
On suit la chose de près. Et parallèlement, le même rapport d'Art Price dit que le marché de l'art contemporain, l'année dernière, a chuté d'à peu près 6%. C'est pas énorme dans la mesure où on parle beaucoup dans les grandes sphères économiques, dans les hautes sphères économiques de cette crise financière. Eh bien, ce qu'on dit, c'est que ça n'a rien d'alarmant, donc, de voir l'art contemporain qui baisse de 6%. Même au contraire, ça pourrait amener à dire qu'il se maintient, donc il y a toujours une bonne demande pour différentes œuvres, donc une performance qui est très acceptable. Même ce qu'on dit, c'est que ça reste la troisième meilleure performance de l'histoire dans le secteur de l'art contemporain. On avait parlé un peu l'année dernière du marché justement du contemporain qui est en certaine hausse. Eh bien, même s'il y a baisse, la hausse se poursuit tout de même quand on regarde les tendances globales. Donc encore là, des bonnes nouvelles en matière de rentabilité là, si on reste dans l'industrie
ouais,
des arts.
Oui, donc on s'inquiète pas. Là.
Non, on s'inquiète pas. On s'amène à Montréal pour la troisième notule, une initiative que j'ai trouvée bien intéressante qui est organisée par le Centre Clark, Montréal et Brooklyn qui se marient au niveau artistique. En fait, il y a 8 centres d'artistes ou galeries montréalaises, 8 centres d'artistes et galeries de Brooklyn qui vont faire un échange. Donc, ça va être à Montréal à partir du 19 octobre jusqu'au 6 janvier, puis ensuite à New York, à Brooklyn, du 10 janvier au 24 février. On parle de galeries d'art et de centres d'art qui viennent de Williamsburg, de Bushwick, de Dumbo, qui vont se déplacer à Montréal. Donc, l'idée étant de permettre d'un côté au marché américain de percer un peu, évidemment, au Canada, de pouvoir poursuivre un peu ses forêts, mais surtout de permettre l'inverse au marché montréalais, au marché québécois de l'art, d'aller faire des forêts vers New York. C'est un marché qui est extrêmement précieux, qui est extrêmement important. On a vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives de galeries montréalaises, notamment, qui allaient s'installer dans des grandes expositions, donc pour vendre, pour faire connaître les artistes d'ici. Eh bien, ça reste également dans cette tangente, mais avec cette idée de créer des rapports peut-être un peu plus importants et réguliers entre, justement, différentes galeries, différents partenaires du milieu des arts. Deux petites nouvelles peut-être un peu plus cocasses, tiens, pour terminer.
Oh?
Et on reste dans l'économique, c'est vraiment à saveur économique, la revue de presse de cette semaine. Premièrement, fait le Musée des Beaux-Arts de Lyon a lancé une souscription auprès du public pour acquérir un tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres, L'Arétin et l'Envoyé de Charles Quint. Donc, c'est deuxième exemple récent, en fait, il y avait eu le Louvre aussi qui l'avait fait, donc de dire, ben ok, on veut acquérir cette œuvre-là, ça va coûter tant, maintenant faites des dons. Donc, autant des grands mécènes que des petits particuliers. Et donc, l'idée étant de faire une campagne donc pour amener justement les gens à aller chercher le montant donc global, collectivement, pour permettre au musée d'acheter cette œuvre-là. Et parallèlement, dans l'actualité, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines d'un tableau de Renoir qui avait été acheté au marché aux puces pour 7 $ américains. Il devait être vendu aux enchères pour à peu près 60 000, 80 000 $ US. Finalement, il sera retiré de la vente. Il y a eu début d'enquête et on s'est rendu compte que ce serait peut-être une œuvre volée. Probablement que le voleur n'avait jamais réussi à s'en départir, donc il avait simplement jeté pour diverses raisons, donc ça a quand même pris seulement une semaine pour se rendre
jeté
d'où elle venait.
Jeté quand même, hein? Rien de moins. Je peux rien faire avec, je vais jeter ça.
Alors, ça reste à suivre, évidemment, si effectivement c'est le cas. Sinon, ben la dame qui l'a acheté à 7 $ en sera heureuse, si c'est pas une œuvre volée. Si c'est une œuvre volée, ben évidemment, elle devra être restituée.
La question est, est-ce qu'elle va vouloir se faire rembourser son 7 $?
Effectivement, c'est quand même un investissement, hein?
Ah, n'est-ce pas?
Alors, ben voilà, tout ça, en fait, si les gens veulent explorer un peu plus avant, c'est sur l'aérospatiale.wordpress.com.
Voilà, Raymond, t'as un petit segment un peu lié aux arts visuels, je crois, à ton émission La vie en BD vendredi.
Ben oui, un festival qui s'en vient à Québec, Québec en toutes lettres, et on va s'intéresser vendredi aux événements performatifs liant dessin et littérature, et notamment ben un travail performatif de Pierre Bouchard dans le cadre de son de sa BD Motel Galactique. Alors, on va parler de ça et d'autres, d'autres événements donc qui intéresseraient peut-être les auditeurs de l'aérospatiale.
Voilà, donc c'est vendredi à 17h30. On t'écoute, puis nous, on se revoit la semaine prochaine.
Et ça me fera plaisir.
Et on s'en va en pause. On n'écoutera pas, pour l'instant, on n'écoutera pas le Napalm Jazz. On va plutôt préparer l'entrevue qui s'en vient. On va écouter un extrait de La Gare de Mériol Lehmann, un extrait donc qui fait partie du projet Dérive qui est proposé dans le cadre de Thérotopie. Alors voilà, on vient d'entendre un extrait de La Gare du projet Dérive de Mériol Lehmann qui est présenté dans le cadre d'Hétérotopie Espace Autre, une exposition qui est organisée par Regard. Et avec nous pour en discuter, Anaïs Griffon, directrice artistique de Regard. Bonjour.
Bonjour Julie.
Mélanie Bédard et Charles-Frédéric Ouellette qui sont tous deux artistes qui ont proposé quelque chose pour l'exposition. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ça va bien tout le monde? Oui.
Oui, oui. Parfait.
Ben, je vais commencer avec la base, Anne-Lise. Bon, ça fait un petit peu plus d'un an que Regard est déménagé. Hein? On a passé de la côte du passage. On se rappelle la fameuse côte à monter. On s'est simplifié la vie. On est dans le secteur de la traverse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire comme une exposition autour de ce secteur-là?
Ben, comme tu le disais, ça fait à peine un an. Enfin, en fait, ça fait un an. On a déménagé en juillet l'année dernière. Au niveau du secteur de la traverse, dans un secteur vraiment particulier. En fait, c'est un secteur qui est en mouvement. Avant les ponts, avant la construction des ponts, c'était un secteur ultra dynamique avec plein d'usines, l'arrivée de la gare. Donc, c'était un secteur vraiment assez particulier. Puis là, depuis quelques années, qui est entre deux eaux, en fait, qui est limite laissé à l'abandon. Et la ville et la Société des traversiers du Québec veulent refaire une restructuration.
En fait. Revitaliser le secteur.
C'est ça. Donc, les travaux étaient prévus normalement pour l'année dernière, puis ont été repoussés. Donc, on s'est dit, OK, c'est le moment ou jamais de faire un projet dans ce secteur-là qui est assez spécial. Et puis, de créer une espèce d'exposition qui va travailler, en fait, qui va être révélateur de ce secteur assez spécial. Le terme hétérotopie est...
Oui, c'est ça que j'allais dire. Hein? C'est un concept qui a été inventé par Michel Foucault.
Oui,
qui est au
c'est
cœur de l'exposition. Peux-tu nous en parler un peu?
En fait, le philosophe Michel Foucault en a parlé pour la première fois en 1966 lors d'une conférence sur l'architecture. Et il a émis, l'idée d'avoir des lieux dans lesquels se superposent plusieurs lieux, plusieurs géographies, plusieurs histoires. Donc, c'est des lieux qui amènent à une autre géographie ou à une autre image. C'est des sortes de superpositions, un peu comme une scène de théâtre ou un film, en fait.
Ouais.
Donc, c'est un lieu qui existe, mais dans lequel peuvent se superposer plusieurs autres espaces. Donc, c'est un concept assez large, assez ouvert, en fait, parce qu'il l'a expliqué pendant cette conférence, mais il en a pas parlé non plus pendant des heures. Il y a des choses qu'on peut entendre sur Internet, des conférences qu'il a données aussi là-dessus après. Il y a des livres qui sont sortis aussi sur hétérotopie, mais c'est un concept assez large. Et c'était plutôt un prétexte pour nous à faire une exposition sur le secteur de la traverse et à créer d'autres lieux, à proposer aux artistes de créer des lieux, des espaces autres, comme les appelle Michel Foucault. Il parle d'hétérotopie comme des espaces absolument autres, des espaces qui renvoient à autre chose. Donc c'était...
un espace autre dans un espace qui existe déjà et qui est lui-même chargé.
En quelque sorte, l'inverse de l'utopie. L'utopie qui est quelque chose qui n'existe pas concrètement. Là, l'hétérotopie, c'est comme une utopie localisée. Lui dit c'est une utopie localisée, donc... Donc voilà, en fait, le terme hétérotopie est un prétexte à la création d'espaces autres et au travail sur le secteur de la traverse pour
les artistes. Puis à la création in situ également. Pour l'exposition, t'as assuré le commissariat, dans le fond, de l'exposition, en collaboration avec Vincent Roy d'Ex-Muro.
Ça, comme tu disais, on travaille en espace public et... c'est une question assez particulière, le travail artistique en espace public, c'est quelque chose d'assez délicat. Et à Québec...
Il y a une certaine expertise aussi, j'imagine.
Et à Québec, il y a un très bon organisme qui s'appelle donc Ex-Muro, qui existe, qui est dirigé par Vincent Roy. Donc, quand on a décidé de faire Hétérotopie Espaceau, d'être travailler en espace public, on lui a demandé d'être collaborateur sur ce projet. Donc c'est lui qui a choisi l'œuvre, l'artiste Charles-Frédéric Ouellette qui expose à l'extérieur et les œuvres que propose Charles-Frédéric Ouellette.
D'ailleurs, moi je vais me tourner vers Charles-Frédéric, vers Mélanie également. Donc vous proposez des œuvres dans le cadre d'Hétérotopie. J'imagine Anne-Lise, vous êtes arrivée, Anne-Lise, Vincent, vous sont arrivés avec la thématique. Comment on part d'une thématique comme celle-là pour en venir à créer une œuvre pour l'exposition, pour l'événement?
Je peux te laisser commencer, si tu désires.
Oui, ben personnellement, je connaissais pas nécessairement le concept et ses aléas au départ, mais dès que je me suis informée là-dessus, j'ai vu en fait que ça collait vraiment à mon travail que je fais habituellement. Donc, je travaille souvent en transparence dans les images. Donc, deux images qui en créent une nouvelle, qui est un espace fictif, finalement. Donc, c'est ça, dans cette transparence-là, devient finalement un lieu concret mais fictif. Puis, c'est ce qui m'a appelé à créer un nouveau projet pour Regard. Donc, moi, je suis dans l'espace galerie de Regard.
Ouais, comme dans le grand espace là, de la grande
ouais,
galerie.
Donc,
là.
J'ai la galerie. Puis, avec eux, ben on a vraiment refait, finalement, toute la galerie. Donc, j'ai vraiment créé, on a refait les murs.
Ah,
j'ai
ouais,
créé
hein?
un couloir. J'ai créé un couloir qui amène le regardeur vers un autre espace qui, lui, est celui de la projection vidéo.
Parce que dans ce couloir-là, on entend des sons aussi,
ouais,
là, comme de chaque
aussi,
côté.
C'est ça. Il y avait en fait deux choses particulières là, qui m'ont interpellée dans le concept. C'est le fait qu'un espace concret héberge l'imaginaire, puis aussi la juxtaposition. Qui rappelait un peu mes travaux antérieurs. Donc, la juxtaposition de plusieurs espaces dans un même lieu. Donc, dans le couloir qu'on a créé, grâce à l'équipe de Regard, on a de chaque côté, finalement, de nous, on passe au travers une espèce de mur de son. Et de chaque côté, c'est un son différent. Donc, d'un côté, on a l'eau et... on a l'eau, puis de l'autre côté, on a les bruits du traversier, donc de moteur, de grincement de cordes et tout ça. Donc, on passe à travers ce mur-là. Ensuite, j'ai créé trois écrans. En fait, j'ai réalisé deux plans séquences d'1h30
okay.
sur le lieu qui est la promenade sur le bord de la berge, entre la berge et le cap, qui est le titre de mon exposition. Et donc, la promenade cyclable, et la promenade étant, premièrement, un lieu où l'imaginaire se laisse aller, donc quand on est en marche, en mouvement. Et donc, j'ai fait un plan séquence du côté, la caméra tournée du côté cap, et un plan séquence, la caméra tournée du côté fleuve. Et dans les deux, à toutes les deux ou trois minutes, je réalisais un 360 sur moi-même. Donc, dans l'exposition, on a trois écrans qui présentent ces deux lieux-là. Les écrans sont appelés à être manipulés aussi par le spectateur.
Ouais, c'est ça, on peut vraiment les bouger, oui. là. Puis, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment interactif, là. Quand j'y suis allée, je voyais les trois écrans, puis là, je me disais, ah, OK, intéressant. Puis là, c'est quand la demoiselle, là, qui gardait l'exposition m'a expliqué qu'on les bougeait, là. C'est là que j'ai vu aussi tout le potentiel, là, de l'exposition, parce que t'as aussi créé comme une espèce de pièce avec des stars un peu déconstruites sur lesquelles les images se projettent aussi.
Oui, c'est ça. Ben, sur les trois écrans, on a les deux promenades qui se rencontrent finalement dans l'écran du centre. Donc, les deux promenades, deux lieux différents qui se rencontrent dans le milieu, en transparence. Donc, on est dans un lieu fictif à ce moment-là. Puis, les écrans font un 360 finalement. Donc, le regardeur est appelé à manipuler l'écran. Puis, lorsqu'il passe pour aller s'asseoir sur le banc de l'autre côté, il laisse passer la lumière qui, elle, se reflète sur un mur qui a été créé là, qui est comme pas fini, un peu laissé à l'abandon, avec, peut rappeler les fenêtres d'une maison ou les différents chantiers qu'on rencontre quand on se promène, justement, dans ce coin-là.
Mais ça devient quand même, cet espace-là devient comme un espace de lumière aussi, ouais. là, de manière générale, puis on peut vraiment jouer comme avec les ombrages, puis les angles et tout ça, là.
Oui, il y a une mise en abîme dans un sens qui est fait aussi.
Le lieu, dans le ouais. lieu, finalement, il y a une hétérotopie à l'intérieur même de Regard.
Oui, il y a plusieurs lieux, je ne les ai pas comptés dans mon installation.
Ah non, on s'arrête à un moment donné, il y en a trop. Je me tourne vers Charles-Frédéric. Toi aussi, tu as créé une œuvre pour hétérotopie. Dans ton cas, tu t'es vraiment intéressé à la question des chantiers maritimes.
Oui, en fait, c'est l'amalgame de deux travaux, en fait. On est parti, parce qu'au départ, moi, je travaille... En fait, depuis plusieurs années déjà à documenter, disons, les travaux, en fait, les métiers traditionnels qui s'effacent sur l'espace maritime du Saint-Laurent. Et puis, donc, je travaille déjà sur les pêcheurs. Et donc, je pense que c'est ce qui a animé un petit peu Vincent et Anne-Lise à vouloir continuer dans ce filon-là. Et donc, je suis allé au-delà de ça. Je suis allé dans les chantiers maritimes aussi. Je me suis intéressé à ce type de métier-là. Et puis, par la suite, on a combiné les deux. En fait, ces deux métiers-là, en fait, ou ces deux pratiques-là qu'on ne voit plus ici vraiment sur le territoire, y étaient vraiment présentes autrefois.
Ben oui, hein, on sait l'histoire du chantier des vies aussi, là, qui s'appelle presque à fermer ou qui est toujours en
bannissement. Il y en a plusieurs autres, en fait, qui ont fermé dans les dernières années. Donc, de ramener un peu ces images-là sur le territoire de Lévis, les réintégrer dans le paysage urbain, ça rappelait, bon, en fait, pour moi, c'est ça qui a motivé l'idée de de l'hétérotopie. Et voilà, fait que c'est un peu sur cette idée-là que je suis parti pour produire les photographies. Par la suite, bon, ben, quand on investit l'espace public, là, c'est un autre défi. C'est-à-dire que moi et Vincent, on avait déjà travaillé ensemble l'année dernière pour un projet qui avait été présenté.
C'est Je nous île, hein, c'est ouais, ça, dans île. La Nouvelle.
Ouais, et voilà. Et donc, cette année, on a regardé les bâtiments qui étaient autour du secteur de la Traverse et on a décidé d'afficher en extérieur des images grand format. Alors, on était assez ambitieux pour ça.
Elles sont très grandes, hein,
oui, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, il nous a pris une nacelle. Vincent a fait de l'installation, moi aussi. Alors, on s'est plongé les mains dans la colle. Et puis, ça a donné un projet assez monumental qui est éphémère aussi par la même occasion. Là, on est quand même au début de l'automne.
Alors, c'est ça, le vent, puis le vent,
la température va affecter ces images-là. Mais ça a donné un très, très bon résultat.
En même temps, on pourrait l'interpréter, tu sais, puis le voir un peu comme c'est des pratiques, des emplois qui commencent à disparaître dans la région.
Voilà, donc,
un peu
ils partent par la même occasion.
Ça, ça suscite vraiment aussi beaucoup de réactions. C'est ça, comme disait Charles, on est en automne, puis un projet en espace public, c'est toujours lié avec les intempéries, les passages et tout ça. Puis là, en ce moment, les photos se sont décollées, là, elles ont vraiment, vraiment évolué. Elles sont restées une semaine, mais là, il y a eu vraiment des photos qui se sont décollées.
Mais quand j'y suis allée en fin de semaine, on voyait là, que ça avait commencé à décoller un peu, ouais. Mais on voyait quand même l'ensemble de la photo. Là, donc,
c'est ben là, c'est encore évolué. Puis du coup, on a des appels des gens qui m'interpellent dans la rue puis qui me disent « Ah non, mais là, les photos sont en train de décoller, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ça suscite beaucoup de réactions, mais c'est intéressant aussi dans ce côté-là, parce que c'est une reprise aussi de... C'est les gens qui se reprennent aussi l'espace public, puis qui sont quand même interpellés par ce qui se passe autour d'eux. C'est quand même un bâtiment assez spécial aussi sur lequel t'es installé, Charles.
Ouais, on n'a pas lésiné, on a regardé ce qu'il y avait plus haut, et puis on y est allé.
C'est ça, c'était quand même assez... c'était un gros défi, donc avec Vincent et avec Vincent Roy, ils ont fait un travail assez incroyable.
Peut-être, en terminant, parce qu'on va bientôt, très bientôt, aller en pause, on n'a pas parlé du travail de Cine et de Mériol Lehmann. Est-ce que c'est possible d'un peu nous le présenter?
Oui. Alors, vite fait. Mériol Lehmann, je l'ai contacté aussi dans le cadre d'Hétérotopie parce que j'avais vu son projet Rail au FIMAV à Victoriaville. Et il avait proposé comme un parcours sonore sur la piste cyclable. Puis moi, du coup, ça m'avait tout de suite interpellée aussi.
Surtout qu'il y en a en face de la gare, hein?
Pour aussi le rappel historique que ça faisait, l'ancienne gare qui arrivait là, en fait. C'est les anciennes rails qui ont été transformées en piste cyclable. Donc, j'ai contacté Mériol dans ce cadre-là. J'ai aussi contacté comme partenaire dans le projet avec Avatar, parce qu'il a la casquette aussi de directeur général et artistique d'Avatar. Donc, lui a deux casquettes dans le projet et il propose aussi deux projets. Deux expositions. Il y a le parcours sonore sur la piste cyclable et autour de regard, donc à peu près une dizaine de stations d'écoute de points sonores.
Qu'on peut, avec un code, là.
C'est ça, il y a des choroplastes, tu sais, comme pour les élections, là, mais c'est des choroplastes avec le visuel d'Hétérotopie, sur lequel il y a des codes QR que les gens peuvent scanner. Si les gens n'ont pas de téléphone intelligent ou n'ont pas de lecteur de code QR, peuvent venir à regard. On a des lecteurs MP3 qu'on prête aussi. Donc les gens peuvent aller faire le circuit à vélo ou à pied. Il y a deux circuits, il y en a un plus long et un plus court. Donc c'est vraiment un parcours sensoriel en fait autour de regard. Et puis Mériol présente aussi deux œuvres un peu particulières entre photo et vidéo. Donc elle avait présenté Moulin à Avatar il y a 2 ans, me semble. Donc c'est un peu dans la même veine, c'est un processus particulier, il prend des photos et les assemble avec un matériel informatique spécial. Et ça rend comme un espèce de boucle vidéo.
Ouais, comme un
très spécial
aussi, là, qui passe, puis une superposition. Ouais. Là,
donc il y a deux vidéos, il y en a une dans la salle d'attente du traversier du côté de Lévis et une dans la vitrine de regard.
Et puis Cine,
qui est un atelier d'exploration urbaine, c'est trois artistes et architectes qui travaillent beaucoup en espace public sur le lien entre art et espace public, donc l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien et dans notre environnement. Donc eux ont proposé un mobilier particulier pour regard, une sorte de meuble avec un tapis d'Orient.
Même vraiment comme québécois aussi, ouais. Deux espaces en même temps. Là.
Ça, avec une fleur de lys dessus, les couleurs bleues, un tapis d'Orient, des narguilés et des fûts de bière.
C'est ils l'ont promené.
C'est ça. C'est un mobilier qui est là dans l'espace membre, mais qui peut être sorti aussi à l'occasion qu'on va sortir pour des réunions et des rencontres. D'ailleurs, samedi en après-midi.
Oui, c'est ça. Vous sortez à 2 heures.
On sort à 2 heures, donc on vous invite tous à venir à cette activation du module de CINE, et on va parler d'espace d'art en espace public aussi. Donc, ça va être une discussion assez informelle, mais très intéressante aussi.
Voilà, l'invitation est lancée samedi 6 octobre à 14h. Puis sinon, ben, l'exposition se poursuit jusqu'au 21 octobre. Oui, il y a une liaison, là, il n'y en avait pas. Jusqu'au 21 octobre. Anaïs Griffon, Mélanie Bédard, Charles-Frédéric Ouellet, merci beaucoup.
Merci, Julie.
Et on s'en va en pause. Au retour, on dit quitte des loges.
Le Palais Montcalm présente les Swingle Singers le samedi 20 octobre. Phénomène international de la musique a cappella, ce septuaire britannique lauréat de 5 Grammy interprète aussi bien des chansons de Björk, Bach que des Beatles ou de Sting. Soyez éblouis par leur virtuosité et leur façon inimitable de chanter. Les Swingle Singers, la promesse d'une soirée musicale inoubliable. 20$ pour les 30 ans et moins, détails au palaismontcalm.ca.
Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus?
Hein? On peut-tu demander quoi de plus?
Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre.
L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu.
Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard.
Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.
La 22e édition des Rendez-vous Estrade du 4 au 8 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la France, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Réveillon, Didier Lalloy, Arba des Tornes, les folkloristes, Barbeau, Olivier Soucy et bien d'autres.
Que faites-vous, fillette? Que faites-vous sur le top?
Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com.
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec.
Vous êtes de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde et maintenant accompagnée aussi d'Anouk Deloge. Bonjour Anouk.
Oui, bonsoir Julie, bonsoir Jacques.
Ça va bien?
Ça va super bien, toi?
Oui, tu t'es décentrée en fin de semaine, t'es sortie du centre-ville puis t'es allée à Sainte-Foy pour une exposition.
C'est épouvantable.
Hey, hein? Habituellement, on reste pas mal dans le centre-ville.
Oui, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Là. Puis je vais même donner l'adresse là, pour les gens comme moi là, qui sans voiture, qui sortent rarement du centre-ville. Je suis allée à la maison Amel Bruno, c'est 2608 chemin Saint-Louis. Quand on descend sur Maguire, on tourne à droite.
C'est pas loin.
Oui, c'est ça, ça donne quand même une idée parce que moi, j'étais jamais allée. Puis c'est vraiment une super belle expo, puis c'est vraiment un bel endroit aussi à visiter.
Donc, tu es allée voir...
Je suis allée voir, on parle de terrorisme, c'est ça. On parle de...
T'as dit terrorisme, ça y est, je
cours. Mon vie, Interpol, c'est ça. Ouais, oui, je suis allée voir 10 ans d'urgence de ATSA, qui en d'autres mots se dit action terroriste socialement acceptable. Et puis, c'est une exposition, comme on essayait de s'expliquer juste avant qu'on soit en onde, c'est une exposition, pas vraiment exposition, ni une rétrospective, mais c'est des traces des reliques, des actions qu'ils ont posées, des événements, en fait. Donc, l'exposition, c'est une exposition pluridisciplinaire qui réunit à peu près une vingtaine d'artistes d'ici ou d'ailleurs. Tous ces artistes-là ont en commun d'avoir participé aux événements d'ATSA, qualifiés de mani-festival entre 1998 et 2010, qui il y a beaucoup d'événements, mais là on parle des événements qui s'appellent état d'urgence. On y présente donc vidéos, photographies, dessins, peintures, affiches, films d'affiches, bandes sonores, installations. Vraiment là une tonne de, c'est très chargé. Il y a beaucoup de choses. Puis
là, parce que les pièces sont pas très grandes non plus à la maison Amel Bruno. Donc,
non, mais c'est bien organisé. Chaque pièce est authentique, puis il y a quelque chose de particulier. Donc c'est vraiment, oui, c'est vrai, ça vaut vraiment la peine. Donc si vous êtes comme moi, puis à ça vous connaissez pas vraiment ça, là. Mille excuses. J'ai fait une grosse recherche.
Tu les connais maintenant, toi?
Oui, quand même. Ou ça vaut vraiment. En tout cas, ATSA, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 98 par deux artistes, Annie Roy et Pierre Allard. Leur objectif premier, c'est de sensibiliser. Je commence à trouiller, je pense. Puis d'interpeller la population envers diverses causes sociales, environnementales ou patrimoniales. Puis comment ils font, en fait, c'est pas par les expositions, mais c'est plutôt en produisant puis en diffusant des œuvres lors d'événements transdisciplinaires, bon, sous forme d'interventions, d'installations, de performances ou des mises en scène réalistes. Puis au cours ils nomment ces événements des attentats artistiques. C'est vraiment des mobilisations d'un réseau qui sont non seulement artistiques, mais c'est aussi tout le milieu, plusieurs milieux, dont celui de la restauration, de l'armée, culturelle, des sans-abri, que tous ces gens-là sont réunis pour être présentés et aussi participer. Il y a une grande partie qui sont interactives, puis il y a une partie aussi qu'on peut seulement regarder, être là comme en public. Et puis, la première action d'ATSA, fait plusieurs années quand même, là on parle de 1998, ça a été une manœuvre qui avait pour but de dénoncer les profits faramineux des banques. Ils ont siégé en face du Musée d'art contemporain à Montréal pendant 3 mois. Ils ont fait un monticule de vieux fours avec qui chauffaient des bochots à l'intérieur, distribuaient. Et puis, au cours de cette exposition-là, puis après plusieurs pourparlers, ben, ils ont réussi à trouver, à ramasser des dons, puis à offrir à des gens aux sans-abri pour au-dessus de 15 000 $ de vêtements, puis ça l'amène à la discussion, puis ça l'amène vraiment à quelque chose. Fait que ça, c'est un peu le début, ça donne un peu l'exemple de ce que c'est. Puis dans leur démarche très engagée, ils rendent l'esthétique puis le symbolique comme un outil d'interaction et d'éducation populaire. C'est pas seulement une œuvre qu'on contemple, mais c'est une œuvre qui parle et qui dénonce. C'est aussi une œuvre qui donne et qui ouvre à la discussion, comme on disait. Donc, à l'exposition de la maison Amel Bruno, on présente des œuvres qui font partie de ces événements-là. C'est pas, comme on disait, c'est pas une exposition qui explique ce qu'est ATSA, mais quand même, on comprend bien qu'est-ce que c'est. Mais en fait, c'est quelques créations artistiques de chacun des événements d'état d'urgence qui sont présentées. Comme un peu des reliques, là. C'est une exposition.
Ouais, c'est des traces, hein. Exactement. Parce qu'elles avaient un contexte et là, elles sont un peu décontextualisées, puis ils ont probablement recontextualisé aussi.
Exactement. Oui. Mais toutes mises ensemble, en même temps, l'ensemble, c'est ça. C'est, on a vraiment l'impression d'avoir un échantillon de tous ces événements-là, puis c'est les événements qui sont le plus important. C'est une exposition qui est marquée par le statut social, l'itinérance, la pauvreté et la marginalité. Très important. Puis, les événements, ils ont toujours lieu à la place du parc Émilie Gamelin.
Mais qu'on connaît maintenant.
Oui, c'est
très
ça.
Bien,
à cause de l'inquisition, ça commençait toujours là. Je pense que c'est un endroit qui est engagé.
Oui.
Donc, c'est là qu'il se trouve tous les événements. Puis pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on prend des photos. Il y a quelques œuvres. Quand on arrive, c'est des œuvres qui sont retirées de par exemple, les couvertures qui sont utilisées lors d'événements. Mais là, ils ont fait des œuvres avec les couvertures. Ils ont encadré, ils ont mis des photos. Ou il y a un sac de couchage de l'armée canadienne qui est rempli, qui est pendu, pas pendu, mais qui est accroché au mur. Puis à l'intérieur, il y a un montage photographique avec plusieurs plusieurs des centaines de photographies de gens, des portraits, puis ils mettent en relation des gens de l'armée avec des itinérants, puis ça parle beaucoup de la proximité des deux, comment est-ce qu'on peut différencier les deux, parce que rendu là avec habillé avec des habits de l'armée, qui différencie les gens, puis aussi ça dénonce le budget qui est alloué à l'armée qui est extrêmement énorme, mais que ces événements-là finalement se ramassent à être offerts par la suite au surplus de l'armée aux gens sans-abri. Donc, puis c'est très symbolique. Donc, le sac de couchage représente la chaleur. Puis le toit aussi, là, tu sais, quand t'es itinérant, ton sac de couchage, ça devient aussi ta maison. Donc, il y a vraiment beaucoup de symboles comme ça dans certaines œuvres. Puis il y a d'autres œuvres plus... je dirais plus ludique. Il y en avait une qui était comme une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. C'était Hans Winker. C'est un guide de survie qui nous présente comment, un petit carnet qui présente comment survivre avec une multitude de moyens et de manigances. Par exemple, aller manger dans des hôtels avec les petits déjeuners inclus. On peut aussi faire partie des cocktails dînatoires. Mais il y a aussi aller dans des vernissages et se nourrir. Puis la bonne chose avec les vernissages, les sans-abri, souvent, ils ont le même style vestimentaire. C'est ça qui est écrit. T'sais. Comme ça, on passe inaperçu. C'est assez coquin. C'était très drôle. Ensuite, vous excuserez mon japonais, mais il y a Kiyoe Sakaguchi qui présente un projet Zero Zen House. En fait, on voit une page avec quelques croquis avec des plans architecturaux, mais qui représente un peu le premier livre d'une série d'essais qui documente l'architecture informelle abordant les sans-abri. Ça, c'est un des œuvres. Il y a aussi Jana Dawn McLellan, qui est au milieu de la pièce, il y a un tapis rouge qui a été déroulé lors de la première du film Notre Père, et puis le tapis rouge est fabriqué avec des morceaux de vêtements rouges cousus ensemble.
Ah ouais.
Il y a aussi une œuvre de Sylvie Coton qui s'appelle Ton corps, mon atelier. Ce qu'elle faisait, elle, c'est que les gens qui étaient tatoués, elle les assoyait, elle dessinait leur tatou sur une page, et ensuite elle demandait aux tatoués de redessiner au même endroit leur tatou. C'est comme si elle partait avec une partie de ces tatoués-là, comme qui est comme une acceptation aussi de ça. Donc,
une partie du corps même. Là,
exactement, oui, c'est quand même intime, là, un tatou. Là, c'est quelque chose qu'on a pour toujours, hein, on se le dit.
Le tatoué sur le corps.
Donc, il aborde toujours des préoccupations sociales, mais questionne aussi, il transforme le statut de l'art puis de l'artiste. Comment est-ce qu'on peut aborder, comment est-ce qu'on peut être engagé en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là. Et puis, c'est de parler de communauté, rapprocher les gens, les divers milieux, comment parler de des choses qui sont planétairement, on parle de l'environnement, comment les rendre uniques, individuelles. Puis en même temps, c'est spécial parce que autant qu'on rend les choses universelles, qu'on les rend en unité ou en très précis, ben c'est aussi leur engager, c'est aussi de prendre son individu puis servir la communauté. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça.
Donc, t'as aimé ça, hein?
Oui, vraiment. Ah, ça vaut la peine, puis ça touche. Et on dit que, dans une des entrevues avec l'artiste, avec Anne Héroux, elle disait aussi que elle se servait de l'art pour faire de l'art engagé, parce que ça a une voix différente, ça a quelque chose de ludique, puis de sensoriel à travers les gens, qui fait beaucoup plus toucher des fois qu'un texte avec des statistiques. Tu sais. Oui, je le conseille, ça vaut la peine.
Puis en plus, ça tombe bien parce que c'est présenté jusqu'au 16 décembre, donc c'est une exposition là qui est assez longue.
Mais c'est assez gros aussi, là, c'est quelque chose comme exposition, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine d'y aller, puis peut-être d'y retourner aussi pour bien prendre le temps là, de tout appréhender.
Ben d'y retourner, en fait, moi je proposerais surtout à ça qui fassent des événements ici ou qu'on se déplace, nous, là. Des fois, il faut sortir du centre-ville, donc oui. Et surtout aller voir les événements, c'est ça que ça donne envie.
Ben Anouk Desloges, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
On s'en va en pause audio, on écoute un autre extrait de Napalm Jazz sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était un deuxième extrait de l'album Cassette 1999-2000 de Napanja. C'était une suggestion de Simon Roy. Et là, on s'en va dans un autre univers que celui de l'art audio. On s'en va plutôt vraiment dans l'univers de la peinture de Rita Letendre avec Michel Guimond qui propose en ce moment à sa galerie une exposition consacrée à cette grande artiste. Michel Guimond, bonjour.
Oui, bonjour Madame Gagné.
Ça va bien?
Très bien, merci. Vous?
Oui, ça va très bien. Des belles journées d'automne comme celle-là, ça peut pas faire autrement.
Ben, ça nous fait penser aux couleurs des tableaux de Rita Letendre.
Ben oui, c'est exactement ce que je me disais aussi en début
d'émission.
Les
jaunes, les oranges, les rouges, les verts.
Oui, avec le bleu du ciel et tout ça.
Exactement.
Dans un premier temps, est-ce que c'est possible de nous parler un peu de l'importance de Rita Letendre dans le paysage de l'art canadien? Parce que quand même, c'est une grande femme artiste, là.
Certainement. Rita Letendre, c'est une des plus importantes peintres vivantes au Canada actuellement. Elle aura 84 ans le 1er novembre prochain. Elle a étudié aux Beaux-Arts en 1948-49 et elle a participé dès le début des années 50 aux premières expositions, entre autres des expositions avec les automatistes, même si elle n'avait pas été signataire du reflux global en 1948 parce qu'elle était plus jeune qu'eux autres. Et dès les années 50-60, sa réputation s'est établie très rapidement et elle a participé à plusieurs expositions, autant au Canada qu'à l'extérieur, entre autres, par exemple, on peut penser à la Biennale de peinture canadienne qui a été présentée à Londres dans les années 60. Et elle a toujours été, fait partie des grandes expositions où on présentait l'art canadien abstrait, entre autres en 1967, lors de l'Expo 67. Et finalement, en 2003, il y a eu une grande rétrospective de ses œuvres au Musée des Beaux-Arts du Québec, le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Elle a présenté ses œuvres dans plus d'une centaine d'expositions solo et une centaine d'expositions de groupe. C'est quelqu'un qui a toujours eu une démarche qui est très unique, qui a évolué dans le temps, mais qui a toujours été là, très qui a ses propres caractéristiques.
C'est une démarche, en fait, vous disiez, elle a exposé avec les automatistes, donc dans un premier temps, on sent quand même cette influence-là, puis après ça, on sent qu'elle est allée vers quelque chose d'un peu plus formel, un peu plus plastique, puis par la suite, elle est revenue à un caractère plus spontané aussi.
Absolument. Dans sa démarche, il y a des grands moments, comme vous disiez. Dans les années 50, on voit qu'elle est à la recherche quelque part d'une certaine forme. Le début des années 50, c'est plus une peinture qui est très automatiste. Par la suite, elle va toucher à quelque chose qui est plus construit, si on veut, plus plasticien, autour de 1954 à 58. 58 à 60, on voit réapparaître quelque part un mouvement qui se rapproche des automatistes. Et c'est au début de 1960, des années 60, qu'elle vraiment définit son propre style où elle va utiliser beaucoup le noir, la matière, et puis elle va utiliser avec ça des couleurs très très vives, des rouges, des jaunes, des bleus qu'on retrouve aujourd'hui. Mais c'est une peinture vraiment unique par rapport aux autres automatistes ou aux plasticiens de cette époque-là. Et c'est dès lors que cette démarche, son style, sa démarche va toujours évoluer dans le temps, vers les années 60, là on est en début 60, vers les années 70 apparaissent des tableaux qui sont faits, au lieu d'être faits à l'huile au pinceau, ils sont faits à l'aérographe.
Mais c'était populaire à l'époque, hein?
Oui, c'était assez unique et puis ça représentait beaucoup le modernisme au Canada. Ça a été présenté un peu partout à travers le monde et puis beaucoup à Los Angeles, à New York, aux États-Unis. Et puis, il y a un retour par la suite dans les années 80 vers une peinture qui est plus gestuelle et puis vers les années 2000, la matière réapparaît aussi dans le tableau.
Oui, puis là, dans l'exposition, on se consacre vraiment à sa production des 30 dernières années. Là, ça
absolument.
Reste...
On présente des tableaux de 1987 à aujourd'hui.
Et vous parliez justement, bon, la réintroduction de plus de mouvements et tout ça. On sent quand même que, malgré ces différentes étapes-là, elle a quand même un parcours qui est comment dire, elle s'est intéressée aux mêmes éléments, à la couleur, à la lumière, à tout l'espace dans le tableau. Là, ça, c'est quand même assez constant, puis on le voit très bien dans l'exposition.
Absolument. Fondamentalement, comme elle le dit elle-même, c'est une peinture d'émotion. C'est une peinture qui reflète ses émotions, qui sont traitées, bien entendu. Oui, ce qui caractérise Italo Tanti, c'est la force de la couleur, quelque part, la force du geste aussi. Mais on a des tableaux à l'occasion qui sont plus doux, des tableaux qui sont plus, comment on peut dire, plus composés à d'autres occasions. Mais c'est toujours une expression d'émotion.
Et pour elle, en fait, je lisais dans l'article, l'entrevue qu'elle a accordée à Josiane Desloges du Soleil, elle parlait de l'âme hein, en peinture. Elle faisait un lien avec les artistes de la Renaissance, comment ils auraient pu mettre de l'âme dans leur peinture en abstrait. Mais oui, ça semble très, très important aussi pour elle. Là, on sent vraiment, c'est un peu comme ses toiles abstraites, c'est un peu le paysage de son âme ou de ses états d'âme à elle. On peut voir comment elle se sentait là, en créant.
Aux différents moments où elle a créé ces tableaux-là, c'est profond lié à sa vie, quelque part, aux grands moments de sa vie, ou à des petites joies, ou à des peines de certaines journées aussi. Pour Rita Letendre, ce qu'elle nous dit, c'est que la peinture, c'est la vie, puis la vie, c'est la peinture pour elle. Alors, quand je suis allé choisir les tableaux, elle était toujours dans son atelier, elle peignait, elle avait de la musique, et puis pour elle, c'est essentiel, ça fait partie de sa vie, même aujourd'hui. Alors, j'ai 84 ans.
Et d'ailleurs, vous parlez de musique, elle écoute beaucoup de musique. Là, je pense que tout au long de sa carrière, elle s'est inspirée de la musique. Puis dans l'exposition, des œuvres justement qui réfèrent à Wagner, à Beethoven.
Absolument. Il y a toujours de la musique quand elle peint. Il y a deux œuvres qui sont titrées avec, c'est Beethoven, la cinquième. Et puis une autre œuvre qui s'appelle In a Wagnerian World, dans un monde wagnérien. Mais il y a toujours l'esprit de la musique qui plane au-dessus de l'exposition.
Puis on le voit aussi là, de In a Wagnerian World, là, on sent vraiment la référence directe à Wagner, là, comme le contraste de noir et de blanc, puis trois éléments en rouge qui viennent donner comme une violence puis une intensité aussi
au
tableau.
C'est comme les ténèbres, puis en même temps la lumière qui sort des ténèbres.
Effectivement, puis bon, je parle de ce tableau-là en noir et blanc avec le rouge, mais on en a parlé un peu, mais la couleur quand même, chez Rita Letendre, là, c'est assez incroyable.
C'est souvent osé, à part de ça, on va mettre des oranges très particuliers, très chauds, avec à côté des verts, d'autres fois c'est du bleu, avec du jaune, du vert, il y a de l'audace dans le choix des couleurs, et puis de la composition des tableaux, mais ça fonctionne très bien.
Oui, puis d'ailleurs, peut-être dernière question en terminant, on présente les œuvres des 30 dernières années, mais vous n'avez pas décidé de faire un accrochage chronologique?
Absolument. C'est une peinture d'émotion. Nous, on a fait l'accrochage en fonction de nos émotions par rapport à ces tableaux, mais en même temps, on a voulu montrer qu'il y avait une cohérence dans cette production-là des 30 dernières années. Autant au niveau du langage qu'au niveau des couleurs. Les couleurs, tout en ayant une certaine évolution, laissant une évolution, mais c'était plus les tableaux se répondent entre eux autres.
Oui, ça crée des correspondances.
Absolument. Absolument.
Eh bien, Michel Guimond, merci beaucoup.
On invite tout le monde à voir cette exposition-là. Je pense que c'est une chance exceptionnelle de voir un ensemble d'œuvres, de plus de 25 œuvres de Rita Letendre, une des plus grandes artistes canadiennes vivantes actuellement.
Et voilà, c'est présenté à votre galerie, Michel Guimond, jusqu'au 14 octobre.
C'est ça.
Et voilà, nous, on s'en retourne en dernière petite pause audio. On écoute Napalm Jazz.
Alors, pourquoi ils font ça? Pourquoi qu'ils... Alors, ça, c'est un chose. Vous pouvez pas réussir, mais à moins sans croire. Hein? Savez-vous qu'à moi, la confiance en vous? Savez-vous qu'à moi, vous faites confiance? Quand vous avez un produit et que vous le retournez, ma femme a dit, ah ben, c'est toi, de telle affaire, je connais ça, puis les trois parts est parti, vous le retournez, puis vous rembourse votre argent. Quand vous recevez une caisse, puis disons que la machine les a pas mis comme il faut, par exemple, il manque trois canettes, puis vous avez juste à écrire, puis il les renvoie. Savez-vous quand moi, je ne mettrai pas à checker, puis vérifier, tout ça, puis même pas si vous êtes un résultat, ils vont prendre ça, puis ils vont vous l'envoyer directement. À moi, il y a confiance aux gens. Si à moi, il n'y a pas confiance aux gens, il n'y a pas de construire dans la profession. C'est basé sur la confiance. Mais il y a un deuxième domaine en lequel il faut croire.
Non, on peut croire en compagnie. Il y a une autre chose qu'il faut croire. Il faut croire en vos leaders. Il faut croire en vos 15 points. Il faut croire en vos 4000. Croire en vos directs. Croire en vos 15 points et 4000, disons, je peux comprendre que dans certains cas, vous ne pouvez pas trop croire. Mais au moins croire en vos directs, puis vos François-André Blanchard, puis Jean Glebeuf, puis Bob Brader, puis tous ces gens-là.
Donc, un dernier extrait de l'album Cassette 99-2000 de Napalm Jazz, et je répète encore, hein, c'était une sélection de Simon Roy, mais qui est tout à fait liée aux activités en art cette semaine, puisque Napalm Jazz fera une performance jeudi prochain à compter de 20h30 à l'Agité. Il n'y aura pas de première partie, c'est contribution volontaire, donc vous pointez, puis on dit que ça commence à 20h30 précisément, donc il n'y aura pas de retard ou d'attente, puis dites-vous que ça peut vraiment valoir la peine d'y aller, étant donné que Napalm Jazz n'est pas passé dans la capitale depuis quand même 15 ans. Donc, si vous les avez déjà vus, vous avez envie de les revoir, mais allez-y, gâtez-vous. Autre événement cette semaine, vendredi, dès 17h, il y a le vernissage de l'exposition « Les créatures du désordre » de Geneviève Lapierre qui est présentée à l'établi. Donc, si jamais vous sentez le cœur à la fête et au vernissage, ben allez-y, ce sera les gens seront bien contents de vous accueillir. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission, en fait. Je remercie les invités, je remercie Jacques Gignac à la mise en onde, et puis ben, je vais vous laisser entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique, qui anime nos mardis soirs depuis déjà, je pense c'est la deuxième année de Folk d'Amérique les mardis, et voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Ah, j'oubliais, je vous invite à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com ou également si vous voulez venir nous rejoindre sur Facebook pour avoir des actualités en art visuel et toutes nos menus et etc. de l'aérospatiale. Alors voilà, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit la semaine prochaine.